Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonance, l'émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine, réalisée par Béatrice Maché. Ce soir, je suis en compagnie de Marie-Christine Massé. Marie-Christine, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur nos ondes. Pour vous présenter succinctement à nos auditeurs, je dirais que vous êtes née en 1961 à Ruffec, en Charente. Vous êtes poète, auteur de récits et de nouvelles, mais aussi traductrice de l'anglais vers le français. Vous avez vécu au Maroc, en Suède. Vous avez aussi habité à Saint-Jean-de-Buège, dans les Cévennes. C'est un environnement qui vous a marqué, puisque vous avez écrit sur cette région. Vous avez été enseignante, c'est-à-dire professeur de lettres à Marseille. Vous êtes aussi revuiste. Vous collaborez avec les revues de poésie comme Lieu d'être, Coup de soleil, avec des revues numériques, Recours aux poèmes, Les carnets de Carice. Mais surtout, vous êtes membre du conseil de rédaction de la revue Phénix, dont le siège social est à Marseille, ainsi que de la revue Osiris, qui est une revue de poésie multilingue et multiculturelle, basée aux USA. Je vais citer quelques titres de vos livres. Diaclas de nuit, paru aux éditions Orgeux en 1994. Paroles brûlées, paru aux éditions L'Arbre à Parole en Belgique en 1995. L'Embrasé, aux éditions Jacques Brémond, et ce livre a reçu en 1998 le prix Hilary Voronka. Et pourtant, elle tourne dans la collection Poètes des cinq continents, chez l'Harmattan. Yaran, aux éditions de La Porte en 2011. Et l'Oiseau Rouge, The Red Bird, en octobre 2020. Un recueil bilingue dont la traduction a été effectuée par Andrea Moorhead, paru aux éditions Auxibia, à l'époque dirigée par Régis Daubin et actuellement dirigée par Carole Messrobian. Mais vous êtes aussi auteur de récits avec Un seul oiseau ou Le secret des Cévennes, paru aux éditions La Courolée en 2006. Et puis, on y reviendra. Vous avez traduit l'anthologie de poésie aborigène rassemblée par Kevin Gilbert, intitulée « Le versant noir », paru en 2017 chez le Castor Astral, sans compter les livres d'artistes. Voilà une bibliographie et derrière cela une vie déjà bien remplie. Et l'on comprend que vous écrivez donc depuis longtemps. Alors racontez-nous un petit peu ce qui vous a mis sur la voie de la poésie.
Déjà, quand j'étais lycéenne, je suis allée à la bibliothèque à Angoulême et j'ai découvert le recueil de Christian Gabriel Guèze-Ricord. Et ce livre-là m'a absolument fascinée et j'ai été comme illuminée et j'ai décidé qu'au fond de moi, je deviendrais poète. Et par la suite, j'ai écrit.
Alors, Gabriel Guèze-Ricord, je ne sais pas si les auditeurs arrive à placer, à voir qui était ce poète. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus?
Oui, je dirais que c'était un poète qui était très spirituel, qui allait à l'extrémité du langage. Il cherchait dans le moindre élément qui soit près de lui son secret, en quelque sorte. C'était en fait un poète essentialiste, mais tout également attiré par une lumière éblouissante, lumière qui, je dirais, l'a également fragilisé dans la vie.
Ce qui est intéressant, c'est que on a dit de vous, Marie-Christine, que vous étiez une passionnée et qu'en vous brûlait une flamme. Voilà le lien avec Gabriel Guèze-Ricord, en quelque sorte. Et je vais citer Jean Joubert, qui parlait de votre poésie. Voici un langage ardent, authentique, à la fois sensuel et spirituel. Ce qui me frappe aussi à vous lire, c'est votre capacité à ressentir et à faire partager votre complicité charnelle avec les éléments, le vent, l'eau, les saisons, la nature. Est-ce que c'est cela, cette complicité, cette intensité de ressenti corporel, j'allais dire, qui vous a aussi poussé à écrire ?
Oui, je pense que ma présence au monde est liée à un désir puissant d'intégrer chaque élément, chaque bouleversement qui puisse jaillir sur la nature ou dans la nature, chaque frisson, chaque éclat de lumière, je suis fascinée par les reflets sur les rivières, le mouvement du vent dans les arbres. Tout ça, c'est ce qui me pousse à vouloir dire au plus juste le monde qui nous entoure, dans son essentialité, en fait.
Et je voulais aussi, peut-être à cet instant précis où vous nous précisez ces choses, Marie-Christine, dire que vous êtes aussi photographe, en quelque sorte, et que je pense que votre œil et cette façon de saisir par la photographie est peut-être une façon complémentaire de la manière de saisir à travers les mots.
Tout à fait. Je dirais que regarder le monde, c'est écrire le monde d'une certaine façon, et c'est essayer de saisir dans tout ce qui nous entoure de l'élément le plus simple, le plus dissimulé, le plus inaccessible, de les rendre justement tangibles et visibles à tous, mais dans le partage toujours.
Voilà, je pense que ça, c'est un mot qui vous caractérise aussi, partage. Alors, on a cité Jean Joubert, on a cité Gabriel Guézricor. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs encore dans les pas desquels vous avez voulu un petit peu marcher?
Ah, j'aurais bien voulu, mais je ne sais pas si j'ai réussi ou si je réussirai un jour, mais marcher dans les pas de Thomas Strandströmer, le poète suédois. Il dit au plus juste, le monde concret se fait lui aussi poème, et d'une chose la plus simple, il sait en extraire la profondeur, et c'est vraiment un poète, pour moi, un des plus profonds qui soit.
Il a obtenu le prix Nobel, je crois.
Oui, le prix Nobel de poésie. Et après avoir vécu un an en Suède, je m'étais lancée dans la traduction de Strandströmer, et j'avais cessé de le faire parce que lié par rapport à ma vie, ou voilà, l'occasion ne s'était plus présentée de poursuivre cette traduction. Mais j'ai été fascinée quand j'ai su qu'il avait eu le prix Nobel de littérature, et c'est vraiment un poète qui me parle. Il y a des résonances avec ma propre écriture ou avec la personne que je suis.
Et c'est un auteur assez discret, je crois.
Tout à fait. Il ne s'est jamais mis en avant, il n'a jamais cherché à être reconnu, en fait. Il a tout simplement écrit. Et c'est un homme qui, même de sa propre vie, de son existence, a su vraiment tirer le meilleur. Il n'était pas qu'écrivain, il était aussi un homme tel qu'on aimerait en rencontrer et pour échanger, partager. Et c'est vraiment un être beaucoup devrait lui ressembler.
Une belle personne.
Tout à fait. C'est ça, exactement.
Est-ce que vous parlez le suédois, Marie-Christine?
Jagar pratat svensk.
Ok, on en a la preuve. Marie-Christine Massé parle le suédois. Est-ce que vous avez fait, durant votre parcours, des rencontres marquantes dans ce petit milieu littéraire francophone?
Oui, je dirais avoir rencontré, j'ai été amie avec le poète Jean Joubert, j'ai connu aussi Salas Tétier, André Huguetto. Quand on écrit, on est nécessairement amené à rencontrer d'autres poètes, et ça crée des liens et tout un réseau, mais un réseau, on va dire, d'amitié et de générosité, de douceur. Voilà, les amis sont nombreux, mais les vrais amis, bien évidemment, le sont moins. Les poètes, c'est un ensemble, comme une communauté d'individus
qui ont quand même des antennes vers l'autre, tournées.
C'est ça, toujours. On ne peut écrire seul. Même si on est seul quand on écrit, comme Emily Dickinson l'était, on ne peut, je pense, vivre fondamentalement que si on va vers l'autre. Je pense que l'autre est indispensable.
Et puis je pense que dans le geste d'écrire, parce que c'est pas forcément non plus naturel, quand ça n'est pas pour de la communication, quand c'est une expression comme ça qui vient du plus profond, je crois qu'il y a quand même toujours un espoir de partage.
Tout à fait. C'est ce dont parlait Sartre avec son fameux pacte de générosité entre l'écrivain et le lecteur.
Alors je vais citer un poète qui compte donc parmi vos amis. Il s'agit d'André Huguetto, qui s'exprime sur un de vos livres en 2007 chez l'Harmattan dans la collection Poètes des cinq continents. Alors, début de citation. Des poèmes nocturnes, comme on le dit de certaines musiques élégiaques, préparent la venue d'un temps pour renaître. Marie-Christine Massé fait chanter les passions qui l'émeuvent dans un haut régime de poésie fervente et visionnaire. Fin de citation. Et pourtant elle tourne, c'est le titre de ce livre dont parlait André Huguetto, et ce titre fait immédiatement penser à Galilée, bien entendu, qui en 1633 forçait devant l'Inquisition d'abjurer sa théorie, vérifiée depuis lors, que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non le contraire. Alors, dans sa barbe, il aurait marmonné ces mots, et pourtant il tourne. Donner un tel titre à un livre, c'est lourd de sens. Et pour ma part, je l'ai reçu comme un message entre fatalisme et renonciation. Que vouliez-vous donc signaler au lecteur avec ce titre, Marie-Christine Massé ?
Je signifiais que quoi qu'il advienne dans la vie, ou quoi qu'il ait pu advenir dans ma vie, je ne cesse de tourner. C'est-à-dire que malgré, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés rencontrées, quels que soient les tumultes, quels que soient les ravages qui ont pu avoir lieu, la vie est là et avec elle la force de la rotation. C'est-à-dire que je suis toujours là et vivante et présente sur Terre.
Alors, j'aimerais, si c'est possible, que vous nous lisiez un extrait de ce livre.
Elle finit ses lignes et viendra se reposer. La maison sera noire, peut-être douce. Elle ressemblera à la peau de ce loup mort étouffé en mangeant une petite fille blonde aux yeux bleus. Elle finit ses lignes et viendra se reposer. La maison sera douce, peut-être claire. Elle ressemblera à la peau de ce loup mort étouffé en mangeant la fin des histoires. Banderies perdues, les jours percent la terre. À recueillir dans leurs mains le sang noir des souvenirs, les enfants perdent la raison et les marelles s'effacent sous la pluie. Il faudrait oser un partage plus juste entre la mort et la vie. Alors les oiseaux, en volant très haut, répéteraient aux étoiles l'incroyable histoire des hommes. Toute vue sur la rue sera passible de mort si entre le visage et le regard, le monde se refuse encore. Amande vide, une petite fille compte ses perles. Les guerres ne finissent qu'à l'aube. Il lui faudra apprendre à se cacher sous les meubles quand le piano crie plus fort que la mort. Mais plus loin dans la rue, son regard espérant vient d'être condamné à voir.
Merci beaucoup. Alors, vous faites allusion au petit chaperon rouge, en quelque sorte. Ce petit chaperon rouge-là a les yeux bleus. Quelle est cette petite fille ? Celle que vous étiez ? Une enfant que vous connaissez bien ? Une représentation d'expérience générale d'être ou d'avoir été ? Petite fille ?
Je pense que cette petite fille, c'est bien évidemment moi, puisque c'est le poème est né d'expériences vécues, mais bien également, ça peut être toutes les petites filles qui ont à lutter pour être elles-mêmes.
Et qui n'ont pas forcément les yeux bleus, comme vous.
C'est ça. Et qui sont confrontées à deux loups bien plus méchants.
J'avais aussi sélectionné un autre poème, toujours dans ce recueil, dont je rappelle le titre, et pourtant elle tourne, et dont le titre est « Confusion ». Alors, le voici.
Non, tu n'es pas prête à jouer les voûtes, à incliner ton âme vers les prières. Pourtant, quand tu étais vieille, tu faisais rouler la lumière entre tes doigts. Elle récoltait toutes tes histoires. Personne n'en savait autant. Tu trébuchais entre les bancs, mais l'église vide te protégeait. Elle ne répétait à personne tes faiblesses. Ah si, une fois tu as cru voir un homme, mais il s'est vite échappé. Petite vieille, quel âge aurais-tu si nous avions joué ensemble ? Je t'aurais donné ma poupée avant qu'elle ne brûle à Gaza ou qu'un chien ne la dévore. Je ne sais plus, j'ai perdu la tête la nuit dernière, car il a fait froid et l'église s'est effondrée.
Ce poème, je le mets un petit peu dans une autre catégorie. Enfin, vous reliez quand même les difficultés que vous avez avec toutes les difficultés rencontrées sur Terre. Et c'est cette ouverture-là, moi, qui m'intéresse. Est-ce que vous vous considérez comme une poète engagée, avec toutes les acceptions du mot?
À titre personnel, je ne pense pas qu'on puisse écrire sans être engagé, sans prendre position contre toutes les violences, les injustices, les ravages qui détruisent les individus, les guerres iniques, les politiques génocidaires ou qu'elles soient. Bien évidemment, on ne peut pas écrire simplement, tranquillement chez soi et oublier tout ce qui se passe à l'extérieur. Ces événements-là infiltrent l'écriture, quelle qu'elle soit. Et je ne peux pas, moi, ne pas évoquer Gaza, ne pas évoquer la poupée détruite, ne pas évoquer ces corps dévorés par des chiens qui sont humains.
Et c'est ça qui est fort chez vous, et c'est pas simplement de l'indignation, c'est souffrir avec la compassion. Vous disiez hors antenne, Marie-Christine Massé, qu'une part de nous-mêmes est sans âge, qu'elle a traversé temps et douleur. Elle est peut-être sage aussi. Et vous serez d'accord avec moi pour penser que ce poème, Confusion, que vous venez de lire, s'adresse à cette part de nous-mêmes qui permet une fondation d'un nous, d'un ensemble.
Tout à fait.
Alors, il y avait encore un autre poème que j'avais sélectionné.
Le plancher est fragile où courent les enfants. Les ombres ne sont plus les mêmes les nuits de pleine lune. À quelle étoile confie ses yeux? Quelle main saura choisir le bois de l'arche nouvelle? Le jour venu, aucun flot n'engloutira, aucune souffrance n'attellera les paysages que découvrent les fleurs pour s'ouvrir. Celui qui perd gagne parfois une étoile, l'horizon, un ami. Oh, toi petite, quel fut ton nom pour oser parler aux bêtes? Ne dites plus jamais les mots trahir, voler, renoncer. Un peu de pain suffit à rompre le silence. Mouillé, il nourrit les oiseaux orphelins et les femmes sans feu. Celui qui perd gagne parfois une âme, un rocher, le soleil. Et si loin de nous la légèreté d'une main console les fans blessés, bu la lie des nuits, fait disparaître les disgrâces. Oh, que dirait la mort de ton sourire, de tes os, de tes rêves? Il faudrait parfois dire aux petites filles que les loups se coucheront à leurs pieds, qu'elles parleront comme on joue à la vie avec les étoiles.
Voilà, merci. Merci infiniment. Dans ces quelques bribes, on voit bien l'enjeu qui se joue dans ce livre et comment les situations dramatiques sont rapportées facilement pour nous aux actualités qui regorgent et qui nous inondent à l'heure actuelle. Vous parleriez aussi bien de l'Iran, de l'Afghanistan et comment être fille dans ces pays. Je vais citer un dernier extrait. Et mon amour sur ton visage approche la mémoire du soleil. Ascendance, il est temps de vivre à nouveau. Donc là, on a bien ce mouvement de cycle et de tourner, effectivement, sans tourner vraiment la page, ni ce soit réellement l'éternel retour nietzschéen, mais il y a bien ce mouvement de continuité dans ce fait de poursuivre. Et donc c'est sur cet élan d'espoir que s'achève le cycle ternaire de votre recueil intitulé, je le rappelle, « Et pourtant elle tourne ». Des poèmes nocturnes précèdent l'évocation d'un homme tragiquement disparu, dans la partie intitulée « Extérieur nuit » et prépare, dans la dernière partie, « Extérieur jour », la venue d'un temps pour renaître. Voilà le mouvement de ce très beau livre, touchant et profond. Parlons maintenant de « Yaran », paru aux éditions La Porte en 2011. Le mot « Yaran » se traduisant par « Croix du Sud ». Donc là, on part en Australie, donc c'est la langue aborigène. Yaran, que j'ai lu comme un chant, comme une plongée dans cette âme aborigène. Voici un extrait que je vous laisse lire vous-même.
Sais-tu ce que te dit l'étoile, ô Yaran, quand ta robe près d'une roche se couvre de nuit et de mer? Absente à ce qui fut, tu glisses sur le sable. Violente étreinte où fèvre et sang illumine ce que tu ignorais. vibrante solitude. Première prière, c'est le moment. À toi de naître, ô Yaran, dans l'embrasement du poème.
Racontez-nous un peu la genèse de ce livre.
En 2007, mon fils est parti vivre en Australie. Et afin de me sentir plus proche de lui, bien sûr, j'ai voulu découvrir la poésie aborigène, de même que j'envisageais un voyage en Australie. Et il ne me semblait pas pouvoir voyager dans un pays sans en connaître la poésie. Et j'ai donc, à partir de là, découvert Kevin Gilbert, que j'ai commencé à traduire. J'ai effectué plusieurs voyages en Australie où j'ai rencontré donc la femme de Kevin. Avec son accord, bien évidemment, j'ai poursuivi cette traduction. Et traduction qui n'est pas restée sans incidence sur ma propre écriture. Avec la connaissance aussi de la cosmogonie aborigène. Et puis pénétrer pendant 2 ans, lors de la traduction, dans les blessures génocidaires subies par les aborigènes, m'a plus que bouleversée et il m'appartient de défendre leur cause, et d'être en empathie profonde avec eux et de souhaiter aussi avec ces peuples, je dirais, génocidés, toujours pour le moins encore discriminés, vouloir avec eux cette réparation, cette guérison, mais qui ne peut être sans réparation authentique et véritable et absolue. Les blessures sont malheureusement toujours ouvertes et le seront toujours. On ne peut pas revenir sur le fait que plus de 500 000 enfants ont été arrachés à leur famille. On dira entre 1910 et 1970 que le statut de citoyenneté n'a été reconnu aux aborigènes qu'en 1957. Que les langues aborigènes ont même, non seulement les corps ont été détruits, mais les langues ont été mutilées et effacées aussi. Et c'est à l'heure actuelle une lutte permanente pour que les aborigènes puissent parler leur langue. Il y a des instituts qui sont ouverts, mais ça ne saurait suffire et rien ne peut effacer les blessures génocidaires subies. Je dirais que c'est une abomination, mais plus encore, ce sont des êtres qui saignent encore. Même si leur corps semble intègre, il ne l'est pas.
Quand on regarde la carte de l'Australie, toutes les côtes sont occidentalisées. Les aborigènes sont repoussés au centre du pays, dont les paysages sont fort beaux, mais quand même des zones arides et difficiles.
Oui, et puis quand ils sont sur les côtes, les aborigènes, ils sont reclus dans des réserves ou dans des quartiers ou dans des endroits où ils sont nécessairement marginalisés. Ils manquent d'eau, ils manquent de structures vitales, ils souffrent encore de glaucome, le taux de diabète est phénoménal, la pauvreté, on n'en parle pas, l'alcoolisme non plus. C'est un ravage permanent et continu et perpétuel. Or, bien évidemment, des politiques sont menées pour tenter une réconciliation. Mais je dirais, le mal a été fait, mais le mal, il sourd encore de façon profonde dans la structure même de la composition politique de l'Australie.
Réconciliation ou réparation dans un climat post-colonial encore très rampant et très, très méprisant, ce n'est pas honnête.
Non, non, non. Il y a des aborigènes qui sont pour cette réparation, qui sont pour ce calme, on dira, apparent, mais d'autres, bien évidemment, non. Et moi-même, en étant amie avec des aborigènes qui sont engagés, qui disent les choses telles qu'elles sont, eh bien non, la réparation n'est pas possible. Il est impossible de revenir en arrière et d'effacer tout ce qui a été fait, mais tant que les discriminations se perpétuent, sont perpétuées, tant que les prisons en Australie-Occidentale seront remplies par les adolescents aborigènes, tant que la mortalité infantile sera la plus importante pour les aborigènes, tant que tout cela existera, la réparation ne peut pas avoir lieu.
Je vais lire encore un extrait de ce Yaran rouge. La fleur de magnolia glisse sur la terre chaude. Voile l'empreinte des regards. Une douce poussière s'envole et ce qui hier nous fume est happé par une vague. Nous partons, ignorant ces milliards de messages écrits par les hommes qui nous poussent loin, toujours plus loin, de l'autre côté du monde où les pulsations secrètes de la vie rythment le dream time. Alors expliquez-nous ce qu'est le dream time, Marie-Christine Massé.
Le Dreamtime est un élément, on dira, essentiel de la cosmogonie des aborigènes. Ça signifie en français le temps des rêves. Sa mythologie fluctue selon les clans des aborigènes. Mais je vais évoquer le plus célèbre des mythes. C'est donc l'histoire de ce fameux serpent qui dormait sous terre et qui, en se réveillant, a bosselé la terre, a dessiné des chemins et a formé le monde, en fait. Et c'est de ce chemin que naissent les champs des pistes. Et c'est le temps du rêve. Si vous voulez, c'est la création, mais c'est une création qui est toujours en mouvance et qui signifie que pour un aborigène, ce n'est pas que le sol sur lequel leurs pieds se posent qui importe, mais tout également tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le ciel, chaque élément. L'espace n'est pas que, on dira, terrestre. L'espace est un tout. Et ce Dwin Time, c'est ce tout-là.
Donc la conscience du plus grand, j'ai la même perception moi avec les Native Americans. Ils vivent dans un monde beaucoup plus vaste que le nôtre.
C'est ça.
Leur conscience s'est élargie beaucoup plus loin que ce que nous avons l'habitude de vivre. Je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez D'assonances en dissonance, l'émission consacrée à la poésie contemporaine mensuelle. La tradition de cette émission veut que je demande à mon invité de partager une musique ou bien une chanson avec les auditeurs. Quelque chose qui vous accompagne quand vous travaillez ou bien qui a une symbolique particulière ou bien qui vous incite à écrire. Voilà, quelque chose que vous avez envie de partager tout simplement avec les auditeurs. Alors, quel serait votre choix et pourquoi ?
Je choisirais une chanson de Gurumul, qui est un musicien et chanteur aborigène, qui est né aveugle et qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il est de la nation des Wangu, et dans sa chanson d'ailleurs, il chante dans cette langue, et elle s'appelle Wukun.
Eh bien donc, nous allons écouter Gurumul, le titre de la chanson, Wukun.
Bye.
venez d'entendre Gourmoul. Le temps de la diffusion de la chanson, j'ai cherché des infos concernant cet artiste. Et il faut quand même signaler à nos auditeurs qu'il a été invité par Elton John lui-même à faire la première partie de son concert donné à Sydney en 2008 et qu'il a exécuté un duo avec Sting en 2009 lors d'un passage en France. Cet homme aveugle de naissance est décédé en 2017 à l'âge de 46 ans. Son foie et ses reins étaient malades depuis longtemps, dont le nom complet est Geoffrey Gourmoul Yonopingo. Je vais lire la recension de Philippe Lux, un poète belge, à propos de L'Oiseau Rouge, paru aux éditions Auxibia en 2020, dont l'auteur est mon invité, Marie-Christine Massé. C'est un recueil bilingue, français-anglais, avec des traductions d'Andrea Moorhead, qui est une poète américaine et directrice de la revue multilingue Osiris. Voici donc ce qu'écrit Philippe Lux. Couleur du cœur, du fer, de la terre, du sable. Le rouge inonde ce recueil sous la bannière de l'oiseau rouge aussi. Le rouge étreint, brûle, symbole de cris, de sang versé, de guerre, de blessures, d'aube dans la chair ennemie. Le feu couve souvent, éclaire, rougeoie. Les hommes sont à sa merci. Sous le feu, la force. Les étincelles, telles des poèmes qui regorgent d'énergie et de souffle, dans une lente traversée des éléments et des paysages. L'oiseau aussi est ressource vive. Et voici un tout petit extrait. Ce jour où j'ai rencontré cet oiseau rouge sur une pierre, j'ai senti que le bleu du ciel m'offrait comme un voile pour m'envelopper ou me faire partir. Et je continue toujours sur cette recension de Philippe Lux. Parfois, un immense bûcher célèbre le retour de l'autre monde. Peinture, traces, reliefs, signes, la vie surmonte le désert et la violence. Le poème prime et signale les ouvertures. Marie-Christine Massé, en des poèmes très contrôlés, sait lever le souffle d'un chant ou donner mémoire à la rencontre, jouant de toutes les couleurs, bleu, noir, ocre. Le livre est une épopée de ce qui naît, vit, meurt, entre ciel et terre, là où viennent boire des oiseaux que nul ne voit. Sauf la poète, apte à égrener les sables du rêve ou du silence après la pluie. Au paysage parfois exotique, la poète mêle les méditations naturelles sur l'eau, les reflets des feuilles ou la lumière de l'autre côté du monde. Alors, on va parler de ce livre multicolore où le rouge domine. Et d'abord cette question, comment avez-vous rencontré Andrea Moorhead ?
Alors, Andrea, je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Mais je dirais que c'est une amie de toujours. C'est bien évidemment via la revue Phoenix que nous avons pu être en contact l'une et l'autre. Et à partir de là, une amitié est née, liée d'échanges et de, je dirais, d'une extrême complicité. Nous avons tissé des liens qui sont ceux d'une extraordinairement belle sororité, mais bien plus. Elle a cette sensibilité, cette douceur, cette force, cette appréhension aussi du monde réel qui font que je me sens en synergie près d'elle et par elle, et voilà, nous sommes complices.
Voilà, un bel hommage à l'amitié. Vous voulez parler un peu plus en détail de ce livre ?
Alors ce livre, il me tient vraiment à cœur en ce sens où il est né de mon séjour en Australie, mais bien plus que cela, je dirais qu'il est né de la traduction que j'ai pu faire du livre de Kevin Gilbert et de toutes ces voix aborigènes qui m'ont traversé pendant plus de 2 ans. On pourrait penser qu'il puisse s'agir d'une appropriation culturelle en ce sens où l'Australie aborigène vibre dans ce livre, mais je dirais que c'est plus un corps commun. J'ai fait corps commun avec les aborigènes et avec leur histoire. Et ce livre-là, c'est, on va dire, c'est tout ce qui a pu jaillir de cette expérience extraordinaire vécue en Australie. Et je ne pouvais pas ne pas dire ce que j'avais vu, entendu, ressenti, et je ne pouvais pas laisser sous silence aussi les souffrances des aborigènes, mais il fallait également que je transmue tout cela en une force première, en fait.
Non, je ne pense pas, Marie-Christine, qu'on puisse vous faire un procès d'appropriation culturelle à propos de ce livre. Simplement dire que vous êtes une ardente défenseuse de la cause aborigène, tout simplement. J'aimerais à présent vous entendre lire ce poème publié dans la revue en ligne Recours au poème. C'est une revue très riche, animée par l'infatigable Carole Messrambian et la non moins dynamique Marilyn Bertoncini. Et j'encourage vivement nos auditeurs à visiter le site de Recours au poème. Vous y trouverez des mines entières de textes, des rubriques, des articles, des recensions, des traductions. Et donc, Marie-Christine, s'il vous plaît, lisez ce poème intitulé « Le pays de la vieille femme ».
Le pays de la vieille femme. Sais-tu si un enfant va venir ici où le sable ne chante ni ne pleure? Là où entre deux sapins respire le pays de la vieille femme? Ancienne langue des vagues et des pierres, guerre, grondement des roches arrachées pour teinter de nuit les peaux, paix, clapotis de l'eau sous la lune pour pêcher à main nue les rêves. La vieille femme ne partira pas. Rivée au son d'un coquillage, elle écoute, elle contemple, elle parle, seule, sans l'enfant aux pieds nus. S'il venait à elle, elle perdrait son chant et la lumière des feux entre les arbres. Ainsi en est-il du secret des pierres et des vagues.
Merci. Alors la première fois que j'ai lu ce poème, il m'a paru assez énigmatique. Cette rencontre impossible entre la vieille dame et l'enfant m'a interrogée. On comprend que cette vieille dame est probablement la mère et que la présence de l'enfant occulterait, effacerait la sienne à l'état de vestige et de mémoire. Pouvez-vous m'éclairer parce que je ne sais pas si les auditeurs ont compris comme moi et quel message peut-être se dissimule dans la fin de ce poème?
Alors pour moi, le pays de la vieille femme, c'est le pays de la sagesse, en fait. À la fin, s'il venait à elle, elle perdrait son champ. C'est-à-dire que cette sagesse, bien évidemment, elle ne doit pas être abîmée, ni touchée, ni spoliée, ni détruite, ni blessée. Elle doit rester pure, en fait. Et ce pays, c'est peut-être le pays, c'est peut-être un Eldorado, c'est peut-être la terre qui a été volée, c'est peut-être tous nos rêves, c'est peut-être, ça peut être beaucoup de choses. Ce pays de la vieille femme, en fait, c'est en quelque sorte la métaphore de tout ce qui nous propulse et de tout ce qui nous maintient en vie. Et, en fait, le désir, ça peut être, oui, ça, le désir. Et bien évidemment, si l'enfant venait à la vieille dame, à la vieille femme, pardon, elle perdrait son champ. Je dirais que la sagesse, bien évidemment, ne sera jamais perdue. Et là, le pays de la vieille femme, il sera toujours là, présent. Mais quelque part, quelque chose doit rester secret, de l'ordre du secret, de telle façon à ce que nous, êtres humains, continuons à, pas à chercher, mais à aller de l'avant et à mieux regarder le monde qui nous entoure et à mieux essayer de percer les mystères, en fait.
Cette vieille femme, après vos explications, Marie-Christine, me fait penser au pays où l'on n'arrive jamais, qui est le titre d'un roman d'André Dautel, et il s'agit d'un voyage initiatique. Donc, vieille femme, elle aussi induit ce voyage initiatique. Le pays où l'on n'arrive jamais est un classique de la littérature jeunesse et qui avait obtenu le prix Femina en 1955, et je referme la parenthèse. Votre vieille femme, Marie-Christine, est donc comme le pays où l'on n'arrive jamais, mais vers lequel on tend.
En quelque sorte, mais la vieille femme, elle a trouvé ce pays.
Alors, il me semble que le mot sable revient souvent dans vos poèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il vous est si cher et quel symbole ou encore quelle sensation y est attachée?
Le sable emblématise, je dirais, cette terre, ce minéral, où la mer se pose et se retire. C'est le territoire du va-et-vient, c'est le territoire de la douceur, c'est le territoire de l'échapper aussi. Ça peut aussi emblématiser la fragilité, le passage du temps. Et le sable, pour moi, c'est bien évidemment ce qui glisse entre les doigts, mais ça laisse toujours une trace. C'est quelque chose de magique pour moi, le sable.
On va rester dans le jaune. Ce n'est plus le sable, mais c'est une fleur. Une fleur jaune dans la montagne. Cette fleur jaune dans la montagne, c'est l'arnica montana. Une fleur de la famille des astéracées, et donc en forme d'étoile, comme son nom l'indique. C'est une plante vivace qui ensoleille les endroits où elle pousse. Ce livre que j'évoque, il s'agit d'un récit intitulé « La Petite », en cours de publication. Du souvenir des Cévennes où elle a longtemps vécu, l'auteur fait surgir un récit étonnant de réalisme, fantastique, et ça fait penser un petit peu au Giono de Colline, pour la peinture de caractère et pour l'évocation des forces de la nature, dans la mêlée d'anciennes traditions, dont le personnage est un vieux berger. Il se croit le porteur et respecte les rites. En lisant ce récit, on ne peut s'empêcher de penser à d'autres cultures ancestrales, aux traditions fortes. Et je me demande si cette perception que vous avez eue de la vie rurale dans les Cévennes n'est pas aussi ce qui vous rapproche des aborigènes d'Australie. Alors, on en a parlé. Je rappelle que vous avez traduit l'anthologie de poésie aborigène rassemblée par Kevin Gilbert, intitulée « Le versant noir » et parue en 2017 chez Le Castor Astral. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un pont entre ces cultures traditionnelles ancestrales que sont la paysannerie dans les Cévennes et les sociétés aborigènes d'Australie. Est-ce que la fréquentation et la connaissance de ces milieux ruraux cévenols vous a permis de pénétrer plus facilement dans les mystères et les particularités des cultures aborigènes?
A priori, je ne perçois pas de lien de façon évidente entre ce berger cévenol et les aborigènes, mais je dirais que le livre La Petite a été écrit en prenant compte, on va dire, de toute la dimension anthropologique de la vie dans les Cévennes, c'est-à-dire que ce berger emblématise bien évidemment la terre, le travail rural, les rites, les croyances. Je dirais que non, il n'y a pas de lien entre ce livre-là, La Petite, et L'Oiseau Rouge. Le seul lien qu'on pourrait cependant y trouver, c'est l'humanité. C'est-à-dire que le berger est perçu dans toute son humanité, avec tout ce qui l'emblématise également. Et l'oiseau rouge emblématise toute la culture aborigène, sans prétention bien sûr, toute la culture aborigène, mais toute la force inhérente à ces peuples.
Écoutons Marilyn Bertoncini lire un extrait de l'oiseau rouge. C'est un enregistrement fait dans le cadre de la série Les lectures au balcon, en extérieur donc, et vous entendrez légèrement le bruit de la rue.
Le texte choisi ce matin s'intitule « Loin du poison bleu ». Les arbres s'étaient rapprochés les uns des autres pour empêcher le passage des hommes au cœur bleu. La nuit précédente, ils avaient arraché un enfant à sa mère et jeté son corps dans une rivière. Ce n'était pas un caillou, ni le frémissement du vent, mais la chair d'un pays. Les racines avaient résisté et hurlé et saigné comme une femme en couche. Sur la terre, le rouge n'engloutirait pas ce qui devait être dit de l'autre côté. Ils se tenaient serrés les uns près des autres quand moururent privés d'air les hommes au cœur bleu.
Vous venez d'entendre Marilyn Bertoncini, poète et traductrice qui habite Nice et que nous saluons. Elle lisait un extrait de votre livre, Marie-Christine Masset, « L'oiseau rouge », paru aux éditions Auxibia. Eh bien, c'est le bon moment pour parler de votre expérience de traductrice. Qu'est-ce qui vous a amené à traduire ?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, quand mon fils est parti vivre en Australie, bon, je me suis intéressée à la poésie des aborigènes. Et j'ai lu, j'ai découvert cette première anthologie de Kevin Gilbert faite en 1988, c'est-à-dire pas pour justement célébrer le bicentenaire de la colonisation, mais pour fustiger le bicentenaire de la colonisation. Il a rassemblé 70 voix à peu près aborigènes et j'ai voulu traduire ce livre. Et par la suite, j'ai traduit le Versant noir, qui est l'œuvre de Kevin lui-même. C'était pas un désir, on dira, uniquement intellectuel. Je voulais vraiment faire connaître en France les souffrances traversées par les peuples aborigènes et faire entendre leur voix vraiment loin. La traduction était vraiment l'outil indispensable pour le faire. Et je voulais vraiment lier leur humanité à la nôtre. Il faut vraiment entendre leur soif. Kevin Gilbert, à la fin de son anthologie, exprime ce vœu qu'il espère que ce livre, le livre qu'il a écrit, liera son humanité à la nôtre. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu contribuer à faire.
Oui, il n'y a qu'une seule humanité, et pas des sous-catégories et des sous-humains. On va parler aussi de cet ouvrage paru aux éditions Tituli et que vous avez rassemblé en invitant des traducteurs à s'exprimer sur leurs pratiques et leurs passions, et dont Angèle Paoli parle si bien sur son blog, Terre de Femmes. C'est un blog consacré à la poésie, et de nouveau, j'encourage nos auditeurs à aller le visiter. Ce n'est pas la première fois que je parle de Terre de Femmes, mais petit rappel, petite piqûre de rappel. Voilà, Terre de Femmes sur Internet. Ce blog, c'est une mine d'articles et de présentations d'autrices de haute tenue. L'ouvrage consacré à la traduction porte ce titre évocateur « D'une rive à l'autre ». Alors, comment est venue cette envie de rassembler ces témoignages et comment est né ce livre ?
Je dirais qu'une expérience aussi belle et enrichissante soit-elle ne vaut que si elle est partagée par les autres et que si on écoute aussi celle des autres. Je voulais vraiment savoir comment les autres poètes qui traduisaient recevaient la langue de l'autre dans leur propre écriture, s'ils acceptaient de la recevoir ou si vraiment ils ne la recevaient pas. Je voulais savoir vraiment comment opérer cette traversée d'une langue à l'autre pour eux-mêmes dans leur poésie.
Est-ce que ça a été facile de convaincre les éditions Tituli ?
Oui. Le projet a beaucoup plu. Je l'avais initialement envoyé aux éditions Corti, qui eux-mêmes étaient intéressés. Mais comme il y avait des contributions qui s'apparentaient plus à des témoignages, ils ont décliné la publication. Et les éditions Tituli, par contre, ont été vraiment enthousiastes et ont soutenu le projet.
Donc ça, c'est un livre qui a maintenant 2 ans, 3 ans ?
Oui, à peu près.
Qu'est-ce que cette pratique de la traduction apporte désormais à vos écrits, à votre poésie ? Est-ce que vous ressentez une porosité entre les deux pratiques ? Vous sentez-vous nourri par ce que vous traduisez ? Bien sûr, ça influence d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que ça se poursuit maintenant dans la manière dont vous écrivez ?
Alors, je dirais que depuis l'écriture de L'Oiseau Rouge, il n'y a plus cette porosité entre l'écriture de Kevin et la mienne. Les poèmes que j'écris actuellement sont différents, mais je dirais que ce que j'ai reçu, je le garde et ça se pose en moi. Traduire, c'est comme laisser aussi se déposer en soi les strates de l'écriture de l'autre. Les textes comme au sens de tissu, ramification, lien, qui peuvent s'y poser.
Eh bien, je vous remercie. Je pense que nous arrivons au terme de cette émission, Marie-Christine Massé. Nous n'avons pas pris le temps de parler de la revue Phénix, une revue qui a une longue histoire, qui a eu pour nom les Cahiers du Sud, puis Sud, puis Autre Sud, et enfin, maintenant donc, une revue bien ancrée à Marseille, et comme son titre l'indique, qui renaît de ses cendres. Une revue plongée dans un univers méditerranéen, mais qui a accueilli nombre d'auteurs étrangers. Une revue qui met l'accent sur la poésie dans sa diversité, dans sa vitalité, sans prendre parti ou défendre un clan particulier. Dans cette revue, on y a pu lire des numéros plus spécialement consacrés à des poètes comme Yves Namur, Marie Cosnet, Lucie Taïeb, Jean-Pierre Lemaire, Serge Peille, Jeannine Baud, etc. Et vous voyez des univers très différents. Et donc je garde en mémoire que nous consacrerons une émission à cette revue un jour. Marie-Christine, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Tout simplement, qu'aimeriez-vous dire en plus, Marie-Christine ?
Oui, je voudrais offrir à l'émission d'Assonance en dissonance ce poème, extrait de L'Oiseau rouge. Comment se perdre sur une plage et se retrouver ? C'était un coquillage trouvé sur le sable. Il était encore mouillé. Pourtant, quand je l'ai mis dans ma main, je ne l'ai plus vu. Je me suis mise à trembler en songeant à ces 90 000 kilomètres de veines, vaisseaux, artères qui sillonnent mon corps. Je me suis dit que jamais je ne le retrouverai. Cœur battant, j'ai longtemps essayé de deviner sa présence, mais un sang fou brouillé jusqu'à son acre. Quelques jours plus tard, une chanson est venue à moi. Elle avait plein d'assonances en A. Je l'ai écoutée. J'ai écouté le mot coquillage. Il était dans ma main. Nous sommes repartis ensemble.
Eh bien, c'est sur ce poème que se termine l'émission pour de bon. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour cet entretien. Je suis certaine que les auditeurs auront été touchés par vos textes, votre poésie, par votre voix, votre passion. C'était D'assonances en dissonance, une émission consacrée à la poésie contemporaine, animée et réalisée par Béatrice Maché. Je vous retrouverai le mois prochain, et le mois prochain ce sera l'année prochaine, avec un nouvel invité, un autre univers poétique, une autre voix. Alors d'ici là, passez de bonnes fêtes et portez-vous bien, chers auditeurs. Au revoir.
Au revoir.